Donc, bon matin et ça fait plaisir encore une fois d'être avec vous. La dernière fois que j'étais avec vous, c'était dans une situation où on s'enlignait pour des temps difficiles. Ceux qui se rappellent, on était venus en octobre, début octobre, puis vers la mi-octobre, on s'enlignait pour un accouchement difficile, puis le décès de notre petite fille. Puis je veux vraiment vous remercier pour vos prières, puis même plus que pour vos prières. On va voir ce matin le thème de Jésus, le sauveur souffrant. Mais une des façons que vraiment on a vu le caractère de Christ démontré dans la vie des enfants de Dieu, c'est quand des frères et sœurs ont fait la même chose que le sauveur lui-même. Ils ne sont pas venus mourir sur une croix, mais sont venus souffrir avec ceux qui souffrent. Puis des gens qui ont fait le voyage, les 600 kilomètres, pas dans le but d'aller s'asseoir sur une plage ou pas dans le but d'aller en vacances, mais de venir pleurer avec nous autres. Puis ça a été vraiment un gros encouragement, puis ça a touché notre cœur. Puis on veut vous remercier, ceux qui n'ont pas pu y aller, je sais que vous avez été là dans vos prières, puis on a reçu des boîtes et des boîtes de nourriture pour nous aider dans ces temps-là. Donc un gros merci. Suite à ça, on a eu nos camps d'hiver qui se sont encore bien déroulés cette année. Dieu travaille. C'est toujours pas des gros fruits concrets, visibles par des conversions massives, mais Dieu travaille dans le cœur des jeunes. Puis on le sait qu'il y a des jeunes que plus que ça va, plus que les conversations qu'on peut avoir avec eux autres s'approfondissent, puis il y a une compréhension qui augmente puis qui s'installe. Donc, continuez de prier pour les jeunes. Aussi, comme Stéphane l'a dit, on a nos camps d'été qui s'en viennent. Une grosse action de grâce. Je vous avais demandé de prier pour la situation avec la municipalité, qu'on ne sait jamais avec qui qu'on a affaire. Ils changent tout le temps de directeur général, puis on avait un bail à signer cette année. Et cette année, c'est la mairesse elle-même qui nous a appelés, puis elle a dit « Je vais m'occuper de... Faites plus affaire avec personne d'autre, là. Vous faites affaire directement à moi. » Puis elle a dit qu'elle allait elle-même négocier auprès des conseillers pour faire une réduction du coût pour notre location. Donc, merci Seigneur. On n'a pas encore eu de nouvelles s'il avait réussi à faire de quoi, mais c'est un encouragement. Puis priez qu'elle puisse être réélue aux prochaines élections. Non, mais aussi, on a notre camp qui s'en vient. Et comme dans tous les camps, on a besoin de bénévoles. On a besoin un peu dans tous les domaines de personnes qui vont vouloir venir, je dis d'embrousse. On n'est pas un camp tout installé comme la plupart des autres camps. On est un petit camp sur un camping municipal avec bien des maringouins. Mais le sacrifice en vaut la peine, puis de passer du temps avec ces jeunes-là. Puis le thème cette année, comme Stéphane le disait, c'est « Retour vers le futur ». Donc, on va se faire une DeLorean, puis on va voyager dans le temps. Mais utiliser cette avenue-là, cette thématique-là pour voyager au travers de tout le temps, pour démontrer aux jeunes que l'Évangile, c'est quelque chose qui traverse tout le temps. Que tu retournes dans le passé, que tu retournes au début, que tu ailles au travers de toute la Bible, au travers même de l'histoire, l'Évangile reste le même. Puis c'est le message du salut par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est ce qu'on veut démontrer avec notre thème de voyage dans le temps. Donc, on risque d'avoir bien du plaisir. Si vous voulez venir avec nous pour partager ce ministère, vous êtes les bienvenus. Mais aussi, vous êtes tous continuellement bienvenus de nous accompagner dans la prière. Donc, c'est ça pour les nouvelles. Donc, ce matin, pour faire suite au thème de la semaine dernière et qui va se continuer la semaine prochaine, Jésus-Christ, l'incomparable. Jésus l'incomparable, et on avait vu avec Trevor la semaine dernière, j'étais pas là, mais il y a une chose qui existe qui s'appelle l'Internet, et j'ai pu écouter lundi le message de Trevor. Mais incomparable par sa vie, une vie exemplaire, une vie parfaite, Jésus qui a été un homme, Dieu sur terre, Dieu venu sur terre, incomparable. Et ce matin, c'est Jésus l'incomparable, sauveur souffrant. C'est un thème qui est énorme, qui est large, que je pourrais traiter dans différentes avenues. Daniel, ce matin, parlait des disciples sur le chemin d'Emmaüs, que Jésus a parti de Moïse, puis au travers de tous les prophètes, il a démontré comment le Christ devait souffrir. J'aurais pu prendre cette avenue-là ce matin, de traverser toute la Bible, puis démontrer comment il fallait que le Sauveur souffre. Je pourrais aussi aller dans l'avenue de vous parler de des souffrances que Jésus a endurées sur la croix. C'était des souffrances atroces, c'était un temps d'agonie, un temps de douleur que Jésus a enduré pour nous, et je pourrais explorer dans cette avenue-là. Mais j'ai choisi d'utiliser un passage qu'on connaît tous, Ésaïe 53, et de traiter ce passage-là particulièrement, puis ça démontre vraiment comment incomparable est notre Sauveur dans ses souffrances. Pas dans ses souffrances physiques, parce que si on aurait vécu au temps de Jésus, puis de voir un gars qui meurt sur une croix, on aurait dit « il n'y a rien d'incomparable là-dedans ». Parce que, je veux dire, les Romains étaient bons là-dedans, puis les Grecs avant ça étaient bons là-dedans, à mettre du monde sur des croix puis à les faire mourir comme ça. C'est sûr que Jésus a été incomparable quand il était sur la croix, puis les tremblements de terre, le ciel qui s'obscurcit, puis toutes ces choses-là, les signes qui se sont montrés. Je veux dire, il n'y a pas un autre crucifié que c'est arrivé. Mais dans Ésaïe 53, on voit comment Jésus a été incomparable dans la manière qu'il a été traité, pas juste sur la croix, mais de son vivant. On voit la manière que lui-même voyait cette croix-là, puis on voit la manière que le Père voyait cette croix-là. Donc, tournez avec moi dans Ésaïe 53. Et on va parler d'un sauveur incomparable, mais indigne de Marvel. Il y a 2 ans, on a fait le thème des super-héros au camp. Puis notre but, c'était de comparer Jésus à plein de super-héros que les jeunes ont, puis que les vieux ont encore aussi, puis qui continuent de faire fureur au cinéma, puis qui continuent d'avoir des nouveaux films de toutes sortes de super-héros. Puis, je veux dire, c'est pas nouveau, même depuis l'Antiquité. Je veux dire, t'avais des récits de Gilgamesh, t'avais des récits d'Hercule, des récits de toutes sortes de héros de l'Antiquité, de la mythologie, qui étaient, je veux dire, une certaine soif de voir quelqu'un qui va avoir le pouvoir de changer les choses, quelqu'un qui va avoir le pouvoir de rendre justice, quelqu'un qui va avoir le pouvoir d'accomplir quelque chose. Notre Sauveur est différent un peu. Parce que oui, il a changé quelque chose, mais pas à la manière Marvel. On va lire le chapitre au complet. Et parce que c'est la parole de Dieu, puis c'est elle qui parle, et ensuite on va le développer. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Un beau passage. Je veux dire, certains d'entre vous probablement le connaissent par cœur. Ceux qui ont été avec Bill Francis dans un choral de Pâques, on l'a tellement chanté ce passage-là que Je le fredonnais constamment en préparant ce message-là, les paroles de ce chapitre-là qu'on chantait. Mais ça nous montre vraiment, le cœur au travers de tout ça. Le cœur de Dieu, le cœur du Fils, puis le cœur de l'homme. Et on voit au travers de ça, comme je disais, un sauveur indigne, parce que c'est un sauveur, une faible repousse dans un terrain aride. C'est ce qu'il appelle, il s'est levé devant lui comme une faible plante. Sauveur est venu, on a l'histoire de Noël qu'on connaît, Jésus qui vient dans un palais, non, dans une étable. Il vient dans la faiblesse, il vient dans la pauvreté. On voit la pauvreté de Joseph et de Marie du fait que quand ils sont allés le présenter au temple, ils n'avaient pas les moyens d'offrir un agneau en sacrifice, ils ont offert des tourterelles. Il est venu dans la faiblesse, il s'est élevé comme une faible plante. Pas comme un super-héros puissant qui arrive, c'était l'image qu'on attendait peut-être d'un Dieu qui veut venir intervenir sur la terre, mais une faible repousse dans un terrain aride. Je ne sais pas si vous êtes capable de visualiser un peu un terrain tout craquelé, là, avec une petite pousse qui sort. Dans un sens, c'est faible. Ça nourrit un espoir, mais faible. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que ça va faire? Et on voit du temps de la vie de Jésus que ça a été un peu le cas. Que va devenir cet enfant? Il gardait ses choses dans son cœur. Il voyait Jésus, puis là, il se demandait, ça va-tu donner quelque chose? Cette plante-là dans un terrain aride. On voit aussi que ne faisait pas tourner les têtes. Il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Je veux dire, si on aurait mis une photo, c'est sûr que des fois, on voit Jésus de Nazareth, puis il est différent de tout le monde. Là. Jésus, il est blond aux yeux bleus, puis il a une face qui brille. Puis, je veux dire, tu le spotterais directement dans une foule. Mais Jésus, je veux dire, la parole de Dieu ne nous le présente pas de cette manière-là. Il était un homme ordinaire, que tu n'aurais pas... Il aurait été dans la foule, là, puis on n'aurait pas dit, « Ah, ben c'est sûr que ça doit être lui. » Un homme ordinaire, pas comme tous les super-héros de Marvel, là, qui sont tous bien peignés, puis les... un peu comme moi. Là. Mais... Non, sans blague, il y a un peu de relâchement là-dedans. Mais il n'y avait pas de beauté, pas d'éclat. C'était pas quelqu'un à faire tourner les têtes. C'est quelqu'un qui est un homme de douleur, habitué à la souffrance. La souffrance, je veux dire, habitué à la souffrance, c'est fort à dire, parce que d'où venait Jésus avant de venir sur la terre? Du ciel. Puis il est venu vivre une vie de souffrance, pas juste une mort de souffrance. Je veux dire, une vie de souffrance, une vie, la vie d'un homme de tous les jours, qui passe au travers des temps difficiles, qui voit des amis mourir, qui voit des gens autour de lui souffrir, qui peut-être a vécu la... Ben, il a pas peut-être. Il a vécu la fatigue, il a vécu la faim, il a vécu la soif, toutes ces choses-là qui sont le lot de l'être humain. Il a passé au travers de ces souffrances-là. Il n'y avait pas un super pouvoir qui l'empêchait. Oh, il aurait pu. Le diable a essayé d'utiliser ça. Si t'es le Fils de Dieu, prends ces pierres-là puis fais-en des pains. Mais il a choisi de continuer dans cette voie-là que Dieu avait pour lui. Le contraire un peu de tantôt, il fait tourner les têtes. Verset 3, dans l'autre sens. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Je veux dire, c'est pas que c'était dans la pauvreté, dans sa situation de vie, d'un homme, d'un Galiléen en plus, quand arrivait dans la Judée des hommes bien placés et bien installés, c'était ce Galiléen. On tourne la tête de l'autre côté. Pourquoi Jésus n'a pas choisi de naître, de vivre en Judée, puis d'être à Jérusalem, dans la ville qui était reconnue parmi les chefs religieux pour que, justement, les gens le regardent, puis qu'ils le voient, puis qu'ils l'admirent? Non, c'était le choix que Dieu avait choisi de prendre son serviteur, son fils, puis de le faire vivre au travers une vie de souffrance. Maltraité, opprimé, qu'on voit au verset 7. Il s'est laissé faire, qu'on voit à la suite du verset 7. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Hey, ça contraste avec tous les super-héros que tu peux avoir dans toutes les émissions de TV. Tu ne vois pas un héros se faire laisser faire. Un héros, c'est quelqu'un qui a du caractère, puis quand tu le tapes dessus, il réplique assez vite puis assez fort. Mais Jésus a resté. Je veux dire, il s'est laissé faire. Puis c'est pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Il a dit à Pierre, j'aurais pu envoyer 12 légions d'anges, puis ça aurait été fait. Il a choisi de passer par une vie de souffrance, puis une mort de souffrance. Angoissé. Il a passé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment qu'on voit dans le verset 8. Et on voit cette angoisse-là dans le jardin de Gethsémané, de savoir tout ce qui s'en venait devant lui, de savoir et je crois que le pire, c'était de voir vraiment tout le péché de l'humanité qui allait être mis sur ses épaules, lui qui était saint, qui était juste, qui était parfait. L'injustice, dans un sens, du châtiment, l'injustice qu'il allait vivre devant les hommes, qui allait l'accuser faussement, qui allait lui faire un tribunal ridicule, juste dans le but de se débarrasser de lui. Mais Jésus connaissait tout ça. Il a été dans l'angoisse. Il aurait pu virer de bord, mais il a dit « Que ta volonté soit faite ». Dieu avait choisi que Jésus devait passer par ce temps et on a notre Sauveur qui a obéi. Verset 9, on voit qu'il était non-violent. Il n'était pas venu ici pour se débarrasser d'un empire, se débarrasser d'un ennemi, de se battre, puis comme les Juifs auraient voulu un héros national, comme les héros du passé, comme qu'il y avait Samson, Josué, même les Maccabées, qui étaient des héros guerriers qui ont vaincu des nations puis qui ont soutenu Israël dans ses guerres. Ils espéraient un super-héros. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est la question qui est posée au début parce que, je veux dire, quand tu dis le bras de l'Éternel, c'est quoi qu'on chante quand on est enfant? Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. On s'attend, le bras de l'Éternel, là, ça va être de quoi ça va être de quoi de gros, ça va être de quoi de puissant. Dieu a choisi de démontrer son bras au travers de la faiblesse, puis de passer au travers de toutes ces choses-là, puis de vivre parmi les hommes à la manière d'un homme normal, mais sans commettre de péché, comme qu'on l'a vu la semaine dernière. Sans tromperie, qui est ajouté aussi au verset 9. Dans sa bouche, il n'y avait aucune fraude, aucune tromperie. Ce qu'il disait était la vérité. Ce qu'on voit aussi au travers de ce passage-là, c'est un sauveur qui n'est pas unanime. C'est un sauveur qui n'est pas acclamé. C'est un sauveur qui n'est pas « Hey, c'est lui ». Pourtant, Jean-Baptiste, je veux dire, qui était quand même assez écouté, a déclaré « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Puis ça n'a pas été l'applaudissement « Yeah, il est arrivé ». Ça a été, comme qu'on le voit dans le début du chapitre, qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'était annoncé, on l'a vu ce matin au travers de tous les prophètes depuis Moïse, qu'il allait avoir un sauveur qui allait venir. Il avait annoncé un sauveur qui allait délivrer Israël, puis qui allait vaincre, puis qui allait restituer la gloire d'Israël. Mais il était aussi annoncé parallèlement à celui qui allait venir souffrir. Qui a cru? Qui a cru? Il y en avait quelques-uns. Il y avait les disciples. Certains disciples, ils n'ont même pas eu besoin de voir des miracles. Ils ont juste eu à dire, viens et vois. Puis là, il dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Puis, tu es le sauveur du monde, tu es le Fils de Dieu. Ils ont cru. Mais c'était-tu une majorité? OK, beaucoup de foules ont suivi Jésus. Ça a-tu duré longtemps? Qui a cru? Et encore aujourd'hui, la question, je veux dire, ces questions-là qu'on voit dans Ésaïe 53 restent les mêmes aujourd'hui. Puis ce que j'ai remarqué en étudiant ce passage-là, c'est qu'ils restent quand même, on peut se les pointer du doigt. Qui a cru? Est-ce que je crois? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Comme je disais, le bras de l'Éternel qu'on s'attendait à voir, les bras puissants du Dieu Tout-Puissant, venir complètement renverser tous les problèmes que le peuple faisait face. C'est pas ça qui est arrivé. Une petite faible plante qui a poussé dans la Galilée, qui a vécu une vie normale d'un gars qui suit le travail de son père, d'un fils de charpentier. Méprisé. On le voit au travers de sa vie. Le Galiléen, Celui qu'on essaye de faire taire pendant toute sa vie, celui-là qu'on... je veux dire, si vous lisez les évangiles, combien de fois il a été traité de toutes sortes de choses. C'est par le Satan qui fait ses miracles. C'est un imposteur. C'est, il vient pas de Dieu parce qu'il respecte pas nos lois, puis le sabbat, puis toutes ces choses. Il a été descendu plusieurs fois par les chefs de l'élite religieuse. Abandonné. Je veux dire, un des passage où ce qu'on voit vraiment ça le plus clairement, c'est Jean 6. Jean 6 qui suit immédiatement cette multiplication des pains. Hey, 5000 personnes qui sont là pour le voir, puis pour voir ses miracles, puis voir tout son enseignement, puis ce qu'il fait. Jean 5. Jean 6, Jésus se met à leur enseigner, puis à leur parler de l'importance du pain de vie, puis que c'est lui le pain de vie. Puis là, ça prend pas de temps, que combien qu'il en reste sur les 5000 qui le suivent? 12. Hey, c'est-tu de l'abandon, ça? C'est de l'abandon pour à peu près. Mais c'est pas encore le summum de l'abandon. Il est où le summum de l'abandon? Sur la croix. On le voit Jésus crier les paroles du psaume 22. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je veux dire, c'est cet abandon-là, c'était le pire déchirement dans la vie du Sauveur. Mais ici, il a été méprisé, il a été abandonné des hommes, considéré comme sans importance. Aimez-vous ça, vous faire considérer comme sans importance? Tu sais, comment tu te sens quand que... C'est tout le temps, là. Au travail, à l'école, tu es toujours le petit rejet, tu n'as pas de but, tu n'as pas... Ça fait mal. Tu sais, je veux dire, des fois, on met tellement d'emphase sur les souffrances physiques de Jésus qu'on oublie que, je veux dire, ça a été sa vie complète au travers des souffrances, du rejet, des injustices. Il a été considéré comme sans importance. Et le summum, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'était, je veux dire... Regarde, là, c'est un blasphémateur. Il se prend pour Dieu, il mérite la mort. Et c'est ce qu'ils l'ont jugé pour. Ils l'ont accusé, ils l'ont envoyé se faire crucifier par Pilate. Nos lois exigent qu'il meure parce qu'il est coupable d'avoir, dans un sens, blasphémé, de dire « Je suis Dieu ». Celui dans la bouche duquel il n'y avait pas de fraude puis il n'y avait pas de mensonge a déclaré qu'il était Dieu. Puis il a été accusé de ces mêmes paroles. Il était frappé de Dieu. Et la foule qui était là, je veux dire, devant la croix, pouvait avoir ces deux perspectives-là. Ah, ben là, c'est les tonnerres, puis la noirceur, puis tout. Ah, ça devait être vraiment le Fils de Dieu. Ou ben non, vraiment dire, ben regarde, là, il méritait vraiment ça. Regarde Dieu comment il est en colère. Mais vu comme méritant ce qui lui arrivait. Ce qu'il oubliait, puis ce qu'on oublie souvent encore aujourd'hui, c'est que Jésus était le véritable sauveur du véritable problème. Le véritable problème, c'était pas le problème qui entourait. C'était pas le problème de l'injustice sociale. C'était pas le problème de l'oppression des Romains. C'était pas le problème des riches puis des pauvres. C'était pas le problème des publicains qui volaient le monde. C'était pas le problème des adultères. C'était pas le problème, c'était en dedans. Jésus est incomparable parce qu'il est le seul à s'attaquer au virus et pas seulement aux symptômes. Combien d'entre vous ont eu la grippe? Elle est mauvaise cette année. J'ai été 4 jours en boule dans mon lit à avoir mal, puis à me lever, puis à être étourdi, puis je n'étais plus capable de rien faire. Je voulais essayer de m'asseoir juste pour lire, puis tout ce que je voulais faire, c'était retourner dans mon lit puis dormir. Puis tu avais plein de petits sirops qui étaient offerts, puis tout, ça disait tout. Soulage les symptômes. Puis là, tu parles au pharmacien, puis il dit, il n'y a absolument rien qui guérit la grippe, ça c'est toi qu'il faut qu'il fasse, et ça fait juste soulager les symptômes. Ben, on aurait peut-être acclamé un sauveur qui vient enlever les symptômes. Comme tous ces héros-là qu'on voit à la télévision qui viennent battre les méchants, puis régler des petits problèmes, puis des justices, mais ça ne règle jamais, jamais, jamais le vrai problème. Le vrai problème, il est dans le cœur, puis c'est le péché. Et on voit verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et parmi ceux de sa génération, verset 8, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On voit clairement dans ce passage-là que Jésus sur la croix, c'était pas juste un exemple qui nous donnait de mourir à soi-même. C'était pas juste un exemple d'injustice. Quand j'étais jeune, on avait un livre dans notre bibliothèque, c'était Fauché en pleine gloire. Puis il parlait de toutes sortes de vedettes et de personnes hautes placées qui, rendues au sommet de leur gloire, il est arrivé quelque chose qui ont complètement planté. Puis Jésus faisait partie de ce livre-là. Qu'en pleine gloire, il était pour être proclamé roi, puis là, finalement, là, il y a eu une injustice, puis là, il s'est ramassé, fauché en pleine gloire. Est-ce que c'était ça, sa mort? Une erreur? Est-ce que c'était une erreur de dire, bien, Dieu, dans le fond, voulait qu'Israël le reconnaisse comme roi, puis si il n'avait pas vraiment besoin de mourir sur la croix, s'il l'aurait reconnu comme roi, ça aurait été parfait? C'était pas le plan. C'est pas écrit à multiples reprises dans la parole de Dieu que c'était le dessein arrêté de Dieu que Jésus meure sur une croix. Quand ils ont essayé de le faire roi, Jésus se sauvait parce qu'il est venu dans le monde pour donner sa vie. Pour donner sa vie, pas pour gagner sa vie, pas pour démontrer sa grandeur. Oui, il a fait ces choses-là, il a démontré sa grandeur, mais il est venu donner sa vie, c'était son but. Il est venu pour être frappé, il est venu pour être puni. Il est venu pour être puni à notre place, prendre nos péchés, nos souffrances, tout ce que le vrai problème de notre vie. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est, dans un sens, c'est beau, puis c'est pas beau ce verset-là. D'accord avec moi? Tu t'imagines juste ça, c'était son fils. C'était le fils bien-aimé à qui Dieu a mis toute son affection. Puis on voit ici, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pourquoi? Si tu mets ce verset-là côte à côte avec Jean 3,16, ce verset-là qu'on connaît tous, « Car Dieu a tant aimé le monde. » On dit souvent « Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. » Mais ici, dans Jean 3,16, c'est Dieu le Père qui nous aime assez pour que... Ça lui plaise de châtier son fils à notre place pour qu'on puisse avoir son pardon. C'est le Père lui-même qui avait ce désir-là de nous voir pardonner, de nous voir rétablir en relation avec lui, que le châtiment qui nous donne la paix, quelle paix? La paix avec lui. Le rétablissement de cette relation brisée par le péché, quand la Bible dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu et qui l'empêchent de nous écouter, qui nous cachent sa face. Dans ce même livre-là d'Ésaïe, au chapitre 59, ça lui a plu. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était par amour pour nous. Et on voit le Fils aussi, de la même manière. Pourquoi le Fils est allé jusqu'au bout? Bien, parce qu'il aimait son Père, mais aussi, il nous aimait. Il a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cet amour-là, c'était le Fils qui l'avait. On a cet amour-là du Père auquel ça l'a plu de prendre nos péchés puis de les punir en la personne de Jésus. Puis on a Jésus que ça lui a fait plaisir. On voit dans Pierre que c'est en vue de la joie qui lui était réservée. Il a méprisé la croix, il a souffert l'ignominie puis s'est assis à la droite de Dieu. Ça a été un plaisir dans la souffrance parce qu'il savait pourquoi il le faisait. Il savait que c'était un but, puis il savait, on va le voir dans les versets de la fin, comment il avait en vue. Quoi qu'il avait en vue? Nous avec lui pour l'éternité. Une souffrance au résultat incomparable. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ça, c'est le thème de la semaine prochaine. Celui qui, malgré sa mort, malgré sa souffrance, a prolongé ses jours, c'était dans le plan de Dieu qu'il vainque la mort puis qu'il ressuscite. Il va voir, mais regardez, il va voir une postérité. Ça ne s'arrêtera pas là. Ce n'est pas Jésus sur la croix comme qui a été encore parlé ce matin. Jésus sur une croix, puis c'est Jésus sur une croix. Non, c'est Jésus qui est sur une croix, puis après. Ça l'amène quelque chose ensuite, ça l'amène une postérité, ça l'amène des enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Une postérité qu'on peut être appelé enfants de Dieu, qu'on peut... Jésus s'est fait notre frère. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Hey, j'aime ce petit bout de phrase-là. Je pourrais dire ça à plein de petits bouts de phrases, mais j'aime ça. L'œuvre de l'Éternel est entre les mains de qui? L'Assemblée de Cap-de-la-Madeleine est entre les mains de qui? Jésus. Il continue cette œuvre-là qui a fait de lever une postérité des frères et des sœurs, des enfants de Dieu. C'est entre ses mains et il continue de faire le travail d'édifier, de faire grandir cette Église. Que ce soit à Sainte-Anne-des-Monts, ici, en Chine, en Europe, en Afrique, peu importe. C'est entre ses mains, c'est lui qui accomplit le travail. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Quelle joie pour le Fils. Je veux dire, j'aime beaucoup la prière de Jésus dans Jean 17. Combien de fois il répète « Je veux qu'il soit avec moi. Je veux qu'il soit avec moi, ceux que tu m'as donnés. Je veux qu'il soit avec moi pour l'éternité. » C'est son désir, c'est son amour, c'est son espoir, c'est sa joie que vous et moi, on soit avec lui pour l'éternité. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Justifiera beaucoup d'hommes. Ça veut dire quoi? On a ce problème-là du péché, mais Dieu veut nous justifier, nous rendre justes. Nous rendre justes et saints, comme Denis a parlé ce matin. Il veut nous transformer. Il veut, premièrement, prendre nos péchés. Il ne veut pas qu'on s'aille en charge de nos péchés puis qu'on s'aille ceux-là qui vont dire « Je vais m'arranger avec, m'en débarrasser de mes péchés, m'en travailler plus fort, m'en réussir à un moment donné, là, avec des efforts, puis du longtemps, puis du travail, on va y arriver à être... » Non, non, il veut prendre nos péchés, il veut qu'on les prenne puis qu'on y donne. Il veut se charger de nos péchés, il dit « Déchargez-vous sur lui de nos soucis, mais de nos péchés aussi. » C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Cette phrase-là qu'on entend tellement souvent que des fois on l'entend, c'est pas les clous qui l'ont retenu sur la croix, c'est son amour. Ben, c'est vrai, mais c'est pas les Romains qui l'ont envoyé à croix, c'est pas les Juifs qui l'ont envoyé à croix, c'est lui qui est allé. Encore une fois, dans Jean, un bel épisode, dans le jardin de Gethsémané. C'est qui qu'on... Qui que vous cherchez, hein? Ah, on cherche Jésus. Ah, c'est moi. C'est pas assez, il se relève debout. Ah, c'est qui que vous cherchez, Jésus? Ben, ramassez-moi. C'est lui qui s'est livré. Et c'est Judas dans un sens, mais c'est lui. C'est lui-même qui s'est livré à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, je veux dire, de se faire traiter de la même manière que deux criminels à sa gauche puis à sa droite. Mais... il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et regardez à la fin, et il a intercédé pour les coupables. On est-tu coupable? Je veux dire, un des pires sentiments que l'être humain peut avoir, puis qui peut le ronger, le détruire, c'est le sentiment de culpabilité. Ça peut être pour n'importe quelle raison, on peut avoir un sentiment de culpabilité en dedans de nous autres, puis qui nous ronge. Mais ça, c'est le péché, en dedans de nous autres, d'une réalisation de notre péché, puis... Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Même sur la croix, même à ceux qui le clouent, même à ceux qui le battent, même à ceux qui y ont frappé, arraché à la barbe, planté une couronne d'épines, il dit « Père, pardonne-leur. » Hey, Jésus, il prie, c'est une prière. Une prière à Dieu, une intercession pour les coupables, qu'ils soient pardonnés. Dieu veut pardonner. Jésus est allé, il a souffert sur la croix pour notre pardon. Mais le pardon de quoi? Et... on a dans Ésaïe 53 une belle définition du péché qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Des fois, le péché, on est tellement là, on le définit tellement dans des sens durs, là. Puis des fois, on a la vision que, ben, regarde, je suis pas pire qu'un autre, puis regarde, lui, c'est un criminel, lui, c'est un meurtrier, lui, c'est un menteur, lui, c'est un ci, lui, c'est un ça. Mais il dit, le problème, là, il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Pourquoi Jésus est mort à cause de nos péchés? Ben, nos péchés, c'est nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Puis ce qui est bizarre, c'est que chacun suivant sa propre voie, c'est vu comme une valeur. C'est vu comme quelque chose de bien. C'est vu comme quelque chose de positif. Suivez vos propres voies. Suivez vos désirs. Suivez vos passions. Suivez ce que vous voulez. C'est présenté comme ça. Quand tu lis dans les Écritures, tu vois le livre des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ah, que c'est beau! Est-ce que c'était positif? Non. Dans les Écritures, dans la parole de Dieu, c'est jamais positif quand chacun suit ses propres voies. Il dit, vous étiez comme des brebis qui s'en vont chacun dans sa direction, selon ses désirs, selon ses buts. Ça mène où? Pose une question. Vos désirs, vos passions vous mènent où? Ça vous mène où? Nulle part. Nulle part. Parce que tout ce que vous pouvez avoir comme passion, comme désir, comme objectif, si c'est juste limité à cette terre, ça l'arrête à cette terre et ça va vous mener 6 pieds sous terre. Chacun suivait sa propre voie. Est-ce que c'est notre désir de chacun suivre notre propre voie? Est-ce que c'est là qu'on est le mieux placé? Est-ce que c'est la meilleure avenue de l'être humain de dire « chacun suit sa propre voie » Non, parce que Jésus est venu pour le corriger. On se dit toujours « je veux faire ce que je veux ». Je veux faire ce que je veux, puis il n'y a personne qui a à me dire ce que je veux faire, ce que j'ai à faire. On se fait dire « fais ce que tu veux ». C'est le message du diable, même dans le jardin d'Éden. « C'est beau ce fruit-là, prends-le, hey, tu le veux, hein, prends-le. Fais-le, si tu le veux, prends-le. » C'est le message tout le long de l'ennemi. Dans Jacques, elle nous donne une autre définition du péché qui s'apparente. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ça commence où le péché? Ce que je veux. Convoitise. La définition d'une convoitise, c'est ce que je veux. Je veux faire ce que je veux. Chacun suivait sa propre voie, puis quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, puis le péché, le bout de tout ça, c'est la mort. Est-ce que c'est notre objectif dans la vie? Est-ce que c'est votre objectif de dire « je veux vivre pour ce que je veux, pour enfin mourir en paix avec ce que je veux? » Si la vie, c'était juste ça, mais il y a plus que ça dans la vie. On voit ici, dans 2 Corinthiens 5, « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, c'est qui est mort pour tous? » Jésus. Il est mort pour tous. Si lui est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est que dans le fond, là, c'est tout notre sort. On est tous morts dans nos péchés, puis lui, il est mort pour nous. Et s'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Jésus, il est venu mourir pour qu'on vive plus en faisant chacun ce qui lui semble bon, en chacun suivant sa propre voie. Il est venu mourir pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il nous a rachetés à un grand prix pour qu'on puisse lui appartenir, puis vivre cette vie-là qu'il veut pour nous. Je termine en répétant les mêmes questions qu'on voit dans Ésaïe 53. Qui a cru? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui croient? Et, je veux dire, on pourrait se poser la question, est-ce que j'ai cru? Mais j'aime mieux mettre ça d'une autre manière, est-ce que je crois? Est-ce que je crois? Quelle est ma réponse à ce Sauveur qui, par amour, a choisi de souffrir en portant mes péchés pour que je puisse être libre de vivre pour lui? Quelle est ma réponse? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Est-ce que je vis dans la foi ou dans l'incrédulité? Est-ce que je crois ou est-ce que je suis constamment en train de mettre en question ce que Jésus a fait pour nous? Est-ce que je suis constamment en train de mettre en question les Écritures? Est-ce que je suis en train constamment de mettre en question même l'existence de Dieu puis de Jésus? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que je vis dans la reconnaissance, pas dans le sens de merci, quoi, ça peut être pris dans ce sens-là, mais reconnaissance peut avoir aussi le terme de reconnaître quelque chose comme étant vrai. Est-ce que je reconnais le bras de l'Éternel? Que ce soit, le salut, mais est-ce que je reconnais le bras de l'Éternel dans ma vie? Est-ce que je reconnais, premièrement, tout ce qu'il a fait pour moi? Ou est-ce que je vis dans l'aveuglement, de ne rien voir? Et ça, c'est très possible parce que la Bible nous en parle, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'on ne voit pas briller la gloire de Dieu. Est-ce que je vis dans l'aveuglement? Je veux dire, je vois, quand on me parle de Jésus puis de Dieu, là, on regarde. Est-ce que c'est la gloire ou le mépris? Est-ce que je suis de ceux qui l'ont méprisé, abandonné, qui ont fait de lui aucun cas? Est-ce que je glorifie Dieu avec ma vie? Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse vivre pour lui, qu'on puisse le glorifier. Ou est-ce que je le méprise? C'est pas tout le temps à mépriser de dire « Ah, c'est rien! » Non, mais des fois, on le traite vraiment comme si on le méprisait, comme s'il était rien dans notre vie. Est-ce que je m'attache au Sauveur ou est-ce que je l'abandonne? Comment prompt, des fois, on est à abandonner notre Sauveur? Pour des futilités, pour des choses qui n'ont aucune valeur, pour suivre notre propre voie. Est-ce que je m'attache au Sauveur? Dieu compare, il se compare à une vigne qui on épine nous des branches, qu'on s'attache, qu'on se colle à lui, puis on porte beaucoup de fruits. Est-ce que c'est la passion ou l'indifférence? Est-ce que je fais partie de ceux qui font de lui aucun cas? Ou est-ce que Jésus, il a transformé ma vie, il s'est donné pour moi? Est-ce que je réalise, je veux dire, dans Éphésiens 6, on nous parle des armes, mais on parle du zèle que donne l'Évangile. Mais le zèle qui donne l'Évangile, ce n'est pas juste le zèle d'évangéliser, c'est le zèle de comprendre que Jésus a tellement fait pour moi que ça me donne un zèle que mes pieds ne peuvent pas rester en place. Faut que je fasse de quoi? Et je suis à lui, je ne veux pas vivre pour moi-même, je veux vivre pour lui. Est-ce qu'on a cette passion-là ou cette indifférence? Est-ce que c'est l'amour ou la haine? Ceux qui le considéraient comme frappés de Dieu, humiliés par Dieu, ils le voyaient comme si c'était un sujet de haine. Puis, je veux dire, dans le monde aujourd'hui, tu mentionnes Jésus, puis souvent, ça l'amène la haine. Pourquoi? D'un côté ou de l'autre? Ou est-ce qu'on aime notre Sauveur? Est-ce qu'on est reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous? Puis, de l'aimer de tout notre cœur, comme qu'il nous demande. Prêt à vivre pour lui, puis pas vivre chacun suivant sa propre voie. Remarquez que c'est peut-être difficile de dire « je me situe là ou là dans ces listes-là » parce que j'ai mis des opposés. Comme la Bible fait souvent, elle va présenter des opposés. Mais ça me rappelle Apocalypse 3, avec l'église de Laodicée. Est-ce que tu es froid ou bouillant? Parce qu'entre les deux, c'est pas une belle place à être. Qu'on puisse être bouillant pour ce Sauveur qui a tellement, tellement, tellement fait pour nous. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier parce que tu nous as aimés du plus grand amour qu'il pouvait être démontré. Quand on était encore ennemis, quand on était encore de ceux qui te méprisaient, de ceux qui te voyaient comme rien, Seigneur, tu es mort pour nous. Tu as donné ta vie, tu as pris nos péchés. Seigneur, tu veux qu'on ait une vie qui en vaut la peine, mais Seigneur, une vie pas pour nous-mêmes, mais une vie pour toi. Seigneur, je te prie que s'il y en a ici qui ne te connaissent pas, qui font partie de ceux qui peut-être sont incrédules, qui font partie de ceux qui ne font de toi aucun cas, Seigneur, qui puissent réaliser l'importance de ce que tu as fait pour eux, qui puissent réaliser ce grand amour dont tu les as aimés, Seigneur, ce grand pardon que tu veux leur accorder, cette grande prière que tu fais, Seigneur, à ton Père, de les pardonner. Seigneur, je te prie que tu puisses toucher leur cœur. Seigneur, pour chacun de nous qui sont de ceux qui croient, Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses nous donner cet amour, cette passion, Seigneur, en réponse à ton amour. Pas pour obtenir ton amour, mais Seigneur, en réponse à ton amour, qu'on puisse vraiment vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Puisse au nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen.
Amen.